Alors, dans le nouveau podcast de Parlons Ferme, nous recevons aujourd'hui un personnage très important dans le monde agricole du Québec. Il s'agit de Lucien Breton. L'histoire des Bretons, elle a commencé avant vous, Lucien Breton. Elle a commencé avec Napoléon, votre père, qui était un entrepreneur très jeune, en achetant, d'après ce que j'ai pu trouver dans mes recherches, du beurre d'été revendu l'hiver. Et en 1944, il a ouvert un magasin général qui est très vite devenu un centre de commercialisation des grains. Alors vous nous direz si tout ça, si mes recherches sont bonnes, c'est bien ça le parcours de votre père. On sait que vous êtes très ancré à Saint-Bernard. D'ailleurs, vous êtes connu à Saint-Bernard pour la famille Breton pour avoir fait des prêts d'honneur, ce qui aurait aidé beaucoup d'agriculteurs à se développer. C'est comme ça que votre histoire m'a été racontée. Est-ce que je suis déjà dans la bonne traque, M. Breton?
Tout d'abord, il faut que je vous dise que mon père était un agriculteur, mais surtout commerçant. Hein? C'était pas vraiment un agriculteur. Il n'était pas sur la ferme pendant 2 à 3 jours par semaine. Et puis, il faisait les fermes, puis il allait commercialiser ses produits à Lévis et Québec. En 1944, il a acheté un magasin général. Le magasin général qu'il a acheté, c'était un monsieur qui... Il venait de recevoir la concurrence d'une coop qui venait de se former et 80 % des gens, des agriculteurs, étaient rentrés membres de la coop. Ça fait qu'il avait peur de disparaître et puis il avait décidé de vendre. Et c'est là que mon père a acheté ce commerce-là. Et puis, c'était une distribution d'aliments miracles pour les animaux. Et puis, il vendait de la moulée. Il a continué, bien sûr, à vendre de la moulée.
Et quand on parle des prêts d'honneur, en fait, c'est bien ça, c'est qu'il a aidé en fait des producteurs à acheter sa moulée.
Ce qui arrive, c'est dans notre municipalité, justement, mon père arrivait, il prêtait de l'argent à des... ou il les avançait, c'est une façon différente de le faire, il les avançait, par exemple, la moulée. Mettons que l'agriculteur achetait 20 cochons, 25 cochons, bien, il avançait la moulée jusqu'à ce qu'il vende le cochon. Et puis, à ce moment-là, ben là, il était remboursé. Hein? Et c'est de cette façon que la paroisse de Saint-Bernard, qui est une petite paroisse d'à peu près 100 km carrés, à un moment donné, on s'est ramassé, c'est une façon de parler, avec à peu près plus ou moins un bon 75 producteurs de porc qui étaient indépendants et qui étaient farouchement indépendants, bien sûr, de leur entreprise. Hein? C'était tout des petites fermes... des petites fermes dans le temps qui étaient un peu, appelons ça, de subsistance. Et c'est l'industrialisation des fermes s'est faite graduellement de cette façon-là.
Alors, on va parler justement de l'agriculture, parce que vous avez une bonne connaissance du monde agricole au Québec. On va parler de votre compagnie aussi. Avant, parlez juste un petit peu de vous, parce que moi, j'ai lu dans votre livre, j'ai retrouvé les mémoires, on va dire, un peu. Ça s'appelle « L'aliment breton, l'histoire inspirante de l'entreprise familiale Beauceron ». Mais là-dedans, on parle aussi de votre père, de votre famille, de vous. Et moi, il y a quelque chose que j'ai vu, vous nous dites, en fait, dans ce livre, que la raison pour laquelle vous avez souhaité étudier à mon avis, c'est parce que vous aviez vécu, jeune, une situation particulière.
Oui, la situation particulière, c'est en fait, j'avais 14 ans, lorsque j'avais le mal à une hanche. Et à un moment donné, on a découvert que j'avais souffert de... la maladie de Lake-Porté. Et puis ça, c'est la destruction de la hanche. Et à ce moment-là, on ne parlait pas de hanche artificielle. Hein. Faut dire que ça date de plus de 70 ans. Okay. Et puis on m'avait dit qu'à l'âge de 40 ans, il y avait de bonnes chances que je ne marcherais plus. Hein. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit là, il faut que j'aille aux études si je ne pourrais pas marcher à cet âge-là. Hein.
Et votre réussite scolaire, parce que finalement, ça vous a amené en fait à avoir une vision un peu différente. Puis j'aimerais ça parce que aussi dans ce livre-là, à plusieurs reprises, vous parlez de vision positive, du travail sur la pensée. Je pense que vous faites même un rapport au garbage informatique en disant que c'est important d'avoir des bonnes idées en tête pour avancer.
Personnellement, disons que j'ai dû travailler sur moi-même à ce moment-là parce que je sortais d'un milieu... pas trop développé intellectuellement, c'est une façon de parler, mais il a fallu que je travaille sur moi-même pour essayer de prendre confiance, une certaine confiance en moi. Et ce travail sur moi-même, c'est devenu une seconde nature pour moi. Et toute ma vie, ça m'a traîné un peu dans ma façon d'être et de penser. Toujours s'améliorer.
C'est ce qui vous a tiré par le haut, en fait.
Oui, hein, c'est ça. Oui.
Et dans votre parcours, en fait, là, on va parler évidemment de la production porcine, parce que c'est comme ça qu'on connaît le groupe du Breton essentiellement aujourd'hui. Mais on comprend en vous lisant en fait que vous venez d'abord du monde avicole et vous auriez été le premier à avoir 13 000 poules pondeuses au Québec.
Disons que la production porcine, pour moi, est venue bien après la production avicole. Quand j'étais aux études, justement, j'avais un rêve, c'est-à-dire avoir 10 000 pondeuses et en faire la commercialisation. Parce que les troupeaux de pondeuses, c'était 100, 200, 300 pondeuses, pas plus que ça. Hein. Et puis, moi, c'était un rêve. Et puis, c'est arrivé ça en 1964, le premier poulailler de pondeuses. Et le premier poulailler de poulets à griller, c'était en 1960. 1960, un poulailler de 18 000 poulets à griller, c'était gros, ça, là. C'était monstre, hein? Et puis...
Mais est-ce qui vous avait inspiré ça? Vous êtes allé voir aux États-Unis? Vous aviez fait un voyage ailleurs qui vous a fait comprendre qu'il fallait copier un peu ce qui se faisait ailleurs?
Je vous ai parlé que j'aimais m'améliorer personnellement, donc j'étais abonné aux revues, hein, et des revues spécialisées. Et puis ça me permettait de pratiquer mon anglais un peu. Et puis on voyait ce qui se passait un peu aux États-Unis. Hein? Oui.
Alors, vous avez été un bâtisseur du monde agricole. Vous êtes encore un bâtisseur du monde agricole parce que je crois savoir que vous n'êtes pas très loin de votre entreprise encore. Il y a une histoire que j'aimerais que vous nous racontiez. C'est notamment l'histoire des productions sans sol. C'est-à-dire que dans le porc et la volaille, où il y a quelques familles comme vous.
La production sans sol. Nous autres, en ce qui nous concerne, on achetait une ferme. Une ferme avec peut-être 100 arbres, 90 arbres. Et puis, on construisait un poulailler ou dans le creux, initialement, c'était des poulaillers. Et puis, parce que mon implication dans le porc est venue à cause de la limitation des poulaillers, à cause des plans, on en parlera un peu plus tard, mm-hmm. à cause des plans conjoints et des quotas à la production avicole. C'est pour ça que le porc est venu bien après. Mais normalement, pour développer l'agriculture, c'est ça. On achetait une ferme, on construisait un poulailler qui nécessitait peut-être un peu plus de terrain que le poulailler lui-même pour prendre des engrais. Mais c'était pas vraiment, vraiment sans sol. Hein? Il y avait, disons que c'était des fermes avec un manque de sol.
On peut dire ça comme ça. Puis vous avez été, en fait, un peu le... Est-ce qu'on peut dire que vous avez été un des créateurs des producteurs à forfait qui a commencé à garantir le revenu aux producteurs?
Ça, disons que, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, la production à forfait, chez nous, est venue bien après les années.
Après la vie.
Oui, c'est ça. Est venue surtout, parce que je n'ai pas été impliqué dans la production porcine au début, et pour l'expansion, disons qu'on s'est intéressé à la production porcine après les années 70, 71, 72, parce qu'il ne restait plus de place à l'expansion, étant donné que la production des œufs était sous gestion gestion de l'offre, et la production du poulet à griller est devenue sous gestion de l'offre également en 1972. Et c'est après ça seulement qu'on a commencé à s'intéresser à la production porcine.
Alors justement, on va continuer dans un deuxième podcast parce qu'on va vous garder longtemps avec nous puisqu'on vous a. On va parler de production porcine tout à l'heure avec vous. Juste pour terminer cette première section, ce premier podcast avec vous, on a dit au début l'importance que votre père Napoléon avait eue dans le développement du village de Saint-Bernard. Oui. C'est quoi la fierté que vous avez de savoir d'abord que vous êtes toujours à Saint-Bernard et d'avoir développé l'agriculture au niveau où vous l'avez développé, mais d'avoir développé aussi ce village comme une référence?
Disons en ce qui nous concerne, moi, je suis fier un peu de ce que notre famille a fait parce que, vous savez, l'agriculture, dans les années 1900, quand mon père a acheté le magasin en 1944, l'agriculture, la ferme d'où on partait, là, d'abord, il n'y avait pas d'électricité. La ferme, c'était 5-6 vaches qui donnaient autant de lait qu'aujourd'hui 2 vaches, 6-7-8 vaches. Et une douzaine de poules, des moutons, et puis une truie qui était promenée au mâle dans le rang une fois par année. Et c'était ça, l'agriculture. Hein? Mm-hmm. Quand je dis que mon père a contribué à bâtir l'agriculture, notre famille, Ben c'est ça que je veux dire, c'est qu'on est parti de ce contexte-là d'agriculture à le faire migrer vers autre chose, vers des entrepreneurs indépendants. Et chez nous, ben c'est ça, c'est que mon père faisait confiance aux gens. Il y avait un pouvoir d'emprunt face aux grandes compagnies, aux grandes... qui fabriquaient la moulée, les compagnies nationales, comme Ogilvy, Floron, Miles, ou quelque chose comme ça. Et c'était de même que... puis ensuite, ça, ben, il y avait une coopérative chez nous. Mm-hmm. Fait, il ne fallait pas vendre cher hein, pour,
compétitionner. Il fallait être compétitif.
Ça fait que c'est un... Mais c'est avec cette compétition-là qu'on est probablement devenu meilleur et plus efficace, c'est ça.
Monsieur Lucien Breton, merci beaucoup d'être avec nous, mais on vous garde, comme on dit, il y a d'autres podcasts qui s'en viennent dans Parlons ferme avec Lucien Breton.